Bac FM, bienvenue sur le 106.1 à Nevers et dans la Nièvre. On est mardi 31 mai, journée mondiale sans tabac. Plus facile de commencer que d'arrêter, et même si c'est l'objectif de l'État qu'il y ait d'ici 2027 5 millions de fumeurs en moins en France, le nombre de personnes se déclarant fumeurs de tabac augmente chaque année. Pour pallier cette situation et aider les consommateurs à arrêter, il existe plusieurs organismes, dont un qui exerce sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Il s'appelle Tabagir. C'est une association que l'on présentera avec mon invité Jean-Loup Duros, médecin coordinateur pour Tabagir. Et puis l'avis d'un médecin compte énormément dans la prévention, mais celui d'une personne concernée également. Fumeur il y a encore pas très longtemps, il a décidé d'arrêter il y a pas très longtemps également. Alors pourquoi et comment, quels conseils et quelles difficultés faut-il surmonter? Eddy témoignera au micro de Bac FM. Une émission qui ne veut pas être donneuse de leçons, mais simplement préventive dans l'addiction pour vous aider, vous auditeurs qui nous écoutent, à arrêter de fumer de la meilleure manière possible sans passer devant le diaporama d'images. Bien, pas bien, bien, pas bien. Alors posez votre cigarette et tournez le volume et n'oubliez pas,
le tabac c'est à vous, on en viendra tous à bout.
Bonjour Jean-Loup Duros.
Bonjour.
Vous êtes médecin coordinateur à Tabagir, je viens de vous présenter ainsi. Quel est votre rôle dans l'association?
Le médecin co, il a la chance d'être tabacologue, donc le rôle essentiel c'est d'introduire de la culture tabacologique dans le réseau afin que on s'appuie sur des références, on va dire, reconnues et certifiées avec, on espère, un travail de qualité qui ne s'improvise pas, mais qui s'appuie sur la science. Voilà. Le médecin coordonnateur, c'est ça.
Et c'est un accompagnement complet sur beaucoup d'aspects. On va revenir sur les conseils et les actions mis en place par Tabagir. Mais juste avant, pour faire un point sur l'association, elle a été créée en 2003. Elle agit sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté dans l'objectif d'accompagner donc le public dans l'arrêt du tabac, en passant par des actions préventives en milieu scolaire notamment. Les missions, on va les développer. Ensuite, c'est informer, aider et puis même former. Est-ce que c'est un bon résumé quand même que je fais?
Oui, c'est surtout... C'est surtout former, et dans la formation et l'information, c'est surtout améliorer la culture des professionnels de santé sur l'aide à l'arrêt du tabac, puisque l'aide à l'arrêt du tabac, c'est le rôle essentiel, bien sûr, de Tabagir, en complément de la prévention à travers les actions dans les collèges.
Et elle forme aussi des prescripteurs, 456 exactement, depuis 2003. C'est quoi un prescripteur ?
Oui, alors les prescripteurs, c'est plutôt les gens qui sont en première ligne. D'ailleurs, on anime cette année le congrès de la Société francophone de tabacologie, et on a influencé le congrès pour que ça soit la première ligne qui soit en priorité pour notre région. Et ben, un prescripteur, c'est un professionnel de santé trié parmi les médecins généralistes, parmi les sages-femmes, ou parmi des infirmières azalées ou des infirmières tabacologues, pour qu'elles puissent, ou l'ensemble de ces professionnels puissent orienter de nouveau vers des aides complémentaires. Donc ils prescrivent l'aide complémentaire en plus de leur traitement. L'aide complémentaire, c'est des psychologues formés aux thérapies comportementales et cognitives. C'est les diététiciens, diététiciennes surtout, pour aider les gens à ne pas prendre trop de poids si c'était un obstacle sur l'aide à l'arrêt. Donc ils prescrivent. Et Tabagir prend en charge l'ensemble des acteurs.
Alors si on revient sur votre action à vous, sur votre rôle à vous en tant que médecin coordinateur, la prise en charge d'un patient, ça se passe comment? Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs aspects aussi qui rentrent en jeu?
Oui, l'essentiel étant d'abord d'informer l'ensemble des usagers qui côtoient des cabinets médicaux, en particulier des maisons de santé pluridisciplinaires. Que là où ils sont, éventuellement, on peut les aider à s'arrêter de fumer pour que ça banalise un peu. Autant quand vous passez devant un bureau de tabac, il y a une carotte rouge, vous savez, qui annonce que dans cet endroit, on va vous vendre du tabac. Et bien sûr, il n'y a pas marqué en dessous qu'on vous enlève 10 à 15 ans d'espérance de vie, mais c'est un peu ça. Et autant nous, on voudrait dire, ici, vous êtes dans un lieu qui peut vous aider à vous arrêter de fumer, donc de vous redonner de l'espérance de vie. Ça paraît un peu brutal comme ça, mais c'est un peu ça.
Il y a aussi des aspects qui ont un rôle important, c'est la diététique et la psychologie. Mon invité, juste après notre entretien, il a arrêté de fumer il y a pas longtemps, et je pense que c'est un aspect sur lequel on va revenir aussi, parce que c'est important d'avoir un avis d'une personne qui est en plein dedans, si on veut parler un petit peu grossièrement. Ouais. Mais quelle est l'importance justement de ces deux aspects-là, de former aussi des diététiciens et des psychologues dans l'arrêt de la nicotine?
En même temps, pour notre réseau, c'est une originalité, puisqu'on est, je crois, le seul réseau monothématique en France qui a pris, en tout cas, les rênes de à la fois la prescription et l'aide à l'arrêt dans une consultation par le fameux prescripteur dont on parlait tout à l'heure, et en même temps qui oriente vers en particulier des gens qui décrivent « j'ai déjà tenté de m'arrêter de fumer, mais j'avais pris trop de poids et finalement la prise de poids pouvait être un facteur de risque entre guillemets. Donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Donc on a bien compris qu'il fallait qu'on oriente éventuellement les gens d'emblée vers les diététiciennes pour que ce soit pas un obstacle. Donc ça me paraît essentiel. Donc ça fait pas partie des recommandations officielles au niveau national, mais en tous les cas pour nous ça fait partie des recommandations. Et puis le deuxième volet, c'est les thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire que non seulement les gens peuvent avoir besoin d'une aide d'un clinicien, c'est-à-dire de quelqu'un qui analyse bien la dépendance tabagique, mais aussi qui, dans cette dépendance, peut mettre en évidence le trouble comportemental à l'origine ou secondaire, finalement, au tabagisme, et de savoir si sur des gestes, sur une gestuelle, sur une psychologie adaptée, dans tous les cas, sur des causalités, c'est-à-dire des raisons plus profondes, on peut aider les gens, en particulier pour se débarrasser des fameuses cigarettes que les gens estiment comme essentielles.
Oui, parce qu'il y a trois... Alors, en me renseignant sur le sujet, personnellement, je ne suis pas fumeur, je connais pas exactement ça, mais j'ai vu qu'il y avait trois cigarettes dans la journée.
On peut dire comme ça, oui. Il y a trois cigarettes, enfin, il y a trois dépendances. Donc il y a la cigarette de l'addiction, une espèce de besoin impérieux.
C'est celle du matin, celle-là.
Ça peut être celle du matin, mais en tout cas, elle est réveillée par un réflexe pavlovien. Mais ça veut dire que je suis dépendant de la nicotine, et la nicotine me fait savoir que, en tout cas, mon cerveau est en manque. Donc c'est une dépendance physique, pharmacologique ou physique. Une deuxième dépendance qui est la dépendance... on va dire psychologique, c'est-à-dire la place que prend le tabac dans ma vie, la convivialité, le réflexe que j'arrive pas à me passer de cette cigarette, etc. Donc c'est du comportement. Et puis la troisième cigarette qui va un peu plus profonde au niveau psychologique, c'est-à-dire les raisons profondes d'user d'une drogue. Alors c'est pas typique que pour le tabac, mais comme il se trouve que le tabac est une drogue dure, donc est-ce que j'ai une problématique profonde qui fait que moi je ne peux pas me passer de ce système de récompense parce que je n'ai pas d'autres récompenses dans la vie. Vous voyez, c'est un peu voilà les trois cigarettes si vous les appelez comme ça.
Et donc pour sensibiliser le public sur tous ces aspects, Tabagir passe par plusieurs supports, alors que ce soit radio ou télé, mais aussi par des actions préventives. En 2021, c'est une quinzaine qui ont été réalisées, certaines se passent dans le milieu scolaire notamment. Est-ce que c'est aussi important d'informer, de sensibiliser dès le plus jeune âge ?
Oui, c'est important, mais pas suffisant. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est des actions communautaires. C'est-à-dire, si le plus jeune âge est sensibilisé pendant que... Malheureusement, c'est un peu comme la conduite automobile. S'il y a que le code de la route, ça suffit pas, mais la sensibilité. Ah ben c'est pareil. Là, les actions qui sont faites en collège sont là pour sensibiliser, pour montrer qu'il y a la place des parents, la place de l'exemple, la place savoir dire non. Enfin, c'est la problématique de ce qu'on appelle les groupes de pairs, c'est-à-dire mon collègue sait dire non. Est-ce que je pourrais savoir dire non moi aussi? Ah ben si ça se fait en même temps que les lois qui bougent, c'est-à-dire la lutte contre le tabagisme passif avec les interdictions qui peuvent être ressenties comme des contraintes et des obstacles.
Mais le tabagisme passif, c'est là aussi où il a un rôle, parce que il y a aussi peut-être aussi beaucoup d'adolescents, on va dire, qui commencent à fumer parce qu'on fait comme papa, on fait comme maman. Au final, c'est comme la conduite, papa roule vite, donc moi je roule vite.
Bien sûr. Mais quand on a 10 ans, on dit « Papa, c'est pas bien de fumer », et papa qui a sa cigarette derrière le dos, « Oui, ne fais pas comme moi, mon fils ». Et puis le fils, il dit « Bah, puisque mon papa m'a dit ça avec une cigarette dans le dos, c'est qu'effectivement, je dois fumer, en fait. »
Et il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait manger des chocolats où l'emballage, c'était une cigarette.
Bah, bien sûr, c'est pas mieux. Mais ça existe encore. Maintenant, il y a les fameux puffs, là, qui sont les cigarettiers qui balancent des cigarettes dites électroniques pour qu'éventuellement les gens puissent apprécier un goût, un arôme fruité et se contaminer, on va dire, avec de la nicotine. Ça, c'est les cigarettiers qui font la même chose que la cigarette en chocolat. Oui, c'est pareil.
Et Tabagir, c'est 7416 patients accompagnés depuis 2003, 15537 consultations effectuées. Si vous ne saviez pas, je vous l'annonce. Toutes ces personnes ont arrêté donc de fumer, ont bénéficié des avantages d'arrêter de fumer. que vous mettez en avant sur le site Tabagir. La santé qui s'améliore, ça c'est évident. Il y a aussi l'argent qui est également, car il faut noter qu'un fumeur économise en moyenne 2000 euros par an. Et la liberté. Vous avez juste écrit liberté sur le site, mais ça s'exprime par quoi en fait?
La liberté, c'est le simple fait de pas être désocialisé par une drogue. Quand le matin on se lève et qu'on dit merde, j'ai pas mon paquet, ça y est, on a déjà sa liberté qui est un peu mangée. Si le soir on se dit tiens, les bureaux de tabac vont fermer, faut que je me dépêche d'aller chercher mes clopes, c'est désocialisant et ça bouffe la liberté. Ne pas pouvoir manger calmement avec nos amis dans un restaurant sans avoir à sortir deux, trois fois, c'est une absence de liberté, etc. Au nom de la liberté, on vous grignote de la liberté, quoi. Mais ça, c'est comme ça.
Un consommateur tel qu'il soit aurait six fois plus de chances d'arrêter grâce à Tabagir.
Oui, parce que ça, c'est des statistiques sur les aides à l'arrêt. C'est-à-dire que quand on est tout seul dans son coin et qu'on se dit tiens, je vais essayer de m'arrêter de fumer, on a 3% de chances d'y réussir 6 mois plus tard. Et si on commence à vous aider, la stratégie n'est pas la même, les démarches personnelles ne sont pas les mêmes, et du coup on a besoin d'une espèce de compagnonnage, un peu ce qu'on rencontre d'ailleurs dans les entreprises comme Moi sans tabac ou Journée sans tabac. C'est le fait d'accompagner les gens et leur donner les bons conseils et puis de leur décortiquer leur fameuse dépendance, ça les aide à un peu réfléchir, à mentaliser, et du coup ils s'extraient. Puis il y a une alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, ça veut dire c'est moi qui m'arrête de fumer, mais je sais que je peux compter sur quelqu'un avec qui j'ai fait un contrat. Et on multiplie par 6, ça paraît pas beaucoup, mais il se trouve que 3% par 6, c'est en fonction des aides, etc., on arrive à 25% de bons résultats sur 6 mois. Ça, c'est pas mal, c'est déjà ça. Après, il y a des gens qui rechutent, comme toutes les drogues, et puis qui reviennent peut-être nous voir, d'ailleurs. Plus on essaye d'arrêter de fumer, plus on a de chance d'y arriver. Ça, c'est bien.
Mais ça justifie l'accompagnement complet que vous mettez en avant. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, Tabagir met aussi en avant autre chose, c'est la menace qu'a le tabac pour l'environnement. Donc, c'est aussi un combat écologique, Tabagir?
Ça l'est, c'est pas que Tabagir, mais il n'y a pas de doute que dans les mouvements récents, pour essayer de sensibiliser en particulier ceux qui sont plus sensibles à l'écologie. On a inventé d'ailleurs des petits cendriers portables pour qu'on puisse ne pas jeter automatiquement une cigarette dans la nature sans réfléchir. Le fait de maîtriser un geste et que ce geste soit maîtrisé avec un esprit écolo a d'abord des chances de protéger la nature. Et malheureusement, il n'est pas fait comme ça. Vous savez le nombre de fumeurs qu'il y a sur Terre par rapport aux milliards, ça fait des milliards de mégots qui sont jetés dans la nature tous les jours. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça. Et comme un mégot met un certain temps à se dégrader et en tous les cas à polluer aussi l'eau environnante, que ce soit à travers les ruissellements et puis l'arrivée dans les rivières. Ça me paraît un argument, et puis en même temps c'est un argument qui maîtrise, c'est-à-dire je maîtrise mon geste, donc j'ai des chances de maîtriser aussi ma fausse passion amoureuse pour le tabac. C'est plutôt pas mal.
Donc ça fait deux combats qui sont liés.
Oui.
Merci Jean-Louis Duros.
Y a pas de quoi.
Merci de nous avoir apporté toutes ces explications sur Tabagir pour Bac FM. Je le rappelle, vous êtes médecin coordinateur pour l'association.
Alors ce qui est intéressant, si je peux rajouter un mot là, j'entendais la clôture du Festival de Cannes et j'entendais Vincent Lindon qui disait malheureusement au jour d'aujourd'hui, on remercie de la même façon celui qui nous donne du feu, à qui on demande du feu. Et on remercie de la même façon celui qui nous sauve la vie. Et il faudrait qu'il y ait une graduation, parce que c'est pas le même remerciement.
Qu'on arrive à doser le merci.
C'est bien, c'est au Festival de Cannes, donc ça doit être porteur.
Merci beaucoup.
Voilà, au revoir.
Je vais maintenant m'intéresser à un ancien fumeur qui a récemment arrêté. C'est un témoignage qui, j'en suis sûr, va vous intéresser, car on va parler vrai. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien c'est en fumant qu'on décide d'arrêter. Il y a plusieurs solutions, plusieurs méthodes. Il va nous expliquer la sienne et vous apporter peut-être des conseils à vous qui peut vous intéresser. Bonjour Eddy.
Bonjour Théo.
Alors avant de revenir sur votre expérience, car on peut appeler ça comme ça, on va faire une pause musicale. On va pas les fumer, du coup, on va aller boire un verre d'eau. Je vous ai demandé quel titre vous aimeriez passer, vous m'avez répondu
Frankie Goes to Hollywood.
Pourquoi?
J'aime bien cette chanson. C'est relax.
On écoute ça et on revient juste après. Je répète que cette émission n'est pas dans une démarche de donneur de leçons, car on est tous plus ou moins addicts à quelque chose, que ce n'est pas forcément le but de faire de la bien-pensance, mais plutôt de prévenir et de partager des expériences comme celle d'Eddy qui a la gentillesse de venir sur Bac FM. Vous avez commencé de fumer à quel âge ?
J'ai commencé de fumer à 15 ans jusqu'à 23 ans, et j'ai recommencé à 40.
Vous avez arrêté donc plusieurs années, et pourquoi avoir repris comme ça ? Enfin, comment est venue l'envie de reprendre ?
Les choses de la vie font que quand on fumait ça on pensait que ça nous aidait, c'était plus facile, et puis on décide de reprendre une cigarette, et puis une, deux, trois, et puis après on achète un paquet, et puis
il y a une évolution derrière qui voilà. Et à 15 ans, comment on se dit, tiens, je vais fumer ? On fait comme les copains, en fait ?
Ouais, on fait comme les copains. On est une bande de copains. Il y en a 5 ou 6 qui fument. Toi, t'es tout seul à pas fumer. C'est facile. Hein. Tu demandes une clope, on t'en donne une avec plaisir. Puis une, et puis un jour, tu vas acheter ton paquet, puis tu fumes, quoi. Voilà.
Et ce qui est étonnant, c'est d'arrêter à 25 ans. Parce que c'est pas forcément un âge où on pense à ça tout de suite, à sa santé, à dire il faut peut-être que j'arrête de fumer parce que c'est pas forcément bon. On y pense peut-être quand on commence à vieillir et avec la maturité, mais quand on arrête à 25 ans, c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous dit on va arrêter ?
C'est d'abord l'envie d'arrêter parce que on sent que ça nous gêne dans notre vie quotidienne, quoi. Mais il y a l'emprise de la nicotine, et puis tu te lèves tous les matins ou tu commences à bosser, puis hop, tu prends une cigarette, quoi. Puis c'est devenu un mécanisme. Alors c'est gênant, puis de plus en plus, et puis un jour tu te dis stop, faut arrêter. Et puis t'as quitté un milieu où t'étais avec beaucoup de fumeurs, tu te retrouves quelquefois dans un autre milieu où il y a moins de fumeurs, donc tu te dis c'est bon.
Et justement, ça vient à la question que je voulais poser. Votre entourage, il était fumeur quand vous avez commencé ?
Non, pas du tout.
Famille, oui, je parlais surtout l'entourage famille. Oui, parce que
la famille fumait pas.
On en parlait avec le médecin juste avant. Voilà, il y a aussi, je veux faire comme papa, je veux faire comme maman, donc je me mets à fumer. Mais vous, votre entourage ne fumait pas, c'était suivi des copains. Ça fait combien de temps maintenant que vous avez arrêté ?
Eh bien, ça fait 2 mois.
Alors, ça va ?
Oui, ça va. Voilà, faut être motivé. Mais ça va.
Parce que le but, c'est pas de faire comme avant, du coup, de recommencer dans quelques temps, quoi.
Eh bien, faut espérer que, j'ai suffisamment de volonté pour ne pas reprendre une cigarette. C'est là le plus dur.
Comment elle est venue, l'envie d'arrêter, là ?
J'en avais marre de me lever le matin et de... La première chose que je faisais, c'était prendre une cigarette. Et puis, pour aller fumer, je sortais de chez moi ou j'allais dans un endroit spécifique pour fumer. Ça me pesait. Alors, un matin, je me suis levé puis je me suis dit stop. Plus de cigarette.
Tout seul ?
Ouais, tout seul. Ouais. Je l'ai pas allumé. Dans la journée, forcément, on a envie. Hein, et je me suis dit non, faut que je tienne un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, aujourd'hui, ça fait 2 mois et ça va.
Ouais, parce que c'est un peu le contraste avec mon intervenant juste avant. Il travaille pour une association qui aide les gens à arrêter de fumer. Mais vous, vous êtes dit, j'arrête tout seul.
Ouais, tout seul parce que je voyais pas me lancer dans des démarches justement médicales ou... Faut appeler quand on a envie de fumer, exprimer son besoin d'arrêter. Ça me branchait pas. Je voulais pas me coller des patchs tous les jours ou 2 fois par jour. Je me suis dit faut que ça vienne de moi.
C'est dans la
seul.
Tête. Voilà. Et justement, il y a l'aspect aussi diététique et psychologique. On a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez un petit peu des failles dans les à côté du fait d'avoir arrêté de fumer ?
Par rapport à la nourriture, je n'ai pas le sentiment de manger plus. Après, j'y pense, hein, mais j'essaye de faire attention, quoi, de me modérer. Mais ça, non, je n'ai pas j'ai pas ce rapport du tout.
En fait, vous, votre arrêt du tabac, c'est clairement psychologique, c'est tout dans
ouais,
la tête.
Ouais,
tout ouais, se passe dans la tête.
Ouais, tout se passe dans la tête et avec beaucoup de volonté.
Et les nerfs, ça joue un peu dessus parce que tout le monde dit qu'un fumeur qui arrête de fumer, il faut pas le chercher, il mange beaucoup, c'est tout ce qu'on entend. Mais enfin, est-ce que c'est vrai pour votre cas justement ?
Eh ben, pour mon cas, j'ai pas l'impression de rendre la vie impossible aux gens qui m'entourent. J'essaye de me maîtriser ou quand je sens voilà que je m'agace, je me dis voilà.
Parce que c'est peut-être aussi là que vous avez le plus envie de fumer. C'est quand vous êtes agacé, quand vous êtes énervé.
Non, j'ai envie de fumer quand j'ai plus rien à faire. Je me dis tiens, je pourrais me prendre une cigarette, voilà, pour me passer 5 minutes, pour relâcher la pression au boulot. Et je me dis non, bah non, c'est pas la peine, c'est bon, ça fait 2 mois que je fume plus, je vais pas en reprendre une quoi.
Quand vous étiez fumeur, c'était quand le moment où vous fumiez le plus ? Qu'est-ce qui faisait que vous fumiez le plus ?
Le soir. Je pense que le soir, ou si on sortait, on allait en soirée, je pense que c'est là où je fumais le plus.
Vous avez un travail qui vous empêche de fumer la journée ? Enfin, pas spécialement ?
Bah non, pas spécialement. Si j'ai envie de prendre une cigarette, je m'arrête et puis je fume une cigarette quoi, voilà. Mais. C'est pour s'arrêter, voilà, effectivement, pour moi, beaucoup de volonté, quoi.
Juste de la volonté.
Ouais, juste de la volonté.
Il y a encore des cigarettes à la maison ?
Ouais. Ouais, j'ai encore 2-3 paquets de cigarettes à la maison, des briquets. Sur mon lieu de travail, je pense que j'ai aussi des paquets de cigarettes.
Ah ouais ?
Je fais de la moto et je pense que dans mon blouson de moto, j'ai un paquet de cigarettes.
Moi, je trouve ça impressionnant parce que du coup, vous avez radicalement arrêté et la démarche logique aurait été de allez hop, on jette tout, on arrête, c'est fini. Mais en fait, c'est comme si vous étiez encore fumeur, si vous avez des paquets un peu partout.
Alors, quand j'ai pris la décision d'arrêter de fumer, je me suis dit quand même, je vais pas tout jeter si jamais j'ai envie d'en prendre une. que j'ai de quoi faire, quoi. Voilà.
L'option craquage était quand même envisagée, peut-être.
Ouais, ouais, c'était envisagé, effectivement. Bon, maintenant, ça fait 2 mois, donc voilà, j'en ai plus besoin, mais quelque part, ça me rassure de savoir que j'ai un paquet de clopes au cas où j'ai envie de fumer.
D'accord. Voilà. C'est encore une fois, c'est mental.
Oui, tout à fait, oui. Mais après, j'en fume pas, mais
là, c'est rassurant. Là, c'est 2 mois secs sans cigarette. Aucune. Et est-ce que aussi, ce qui est compliqué, c'est peut-être de voir les autres fumer quand on arrête ?
Non, même pas. Même pas parce que on se dit on a pris la décision d'arrêter de fumer et on dit presque ceux qui fument c'est dommage qu'ils fument encore.
Oui évidemment.
Mais moi ça me manque pas.
Et vous étiez pas un gros fumeur.
Je fumais 15 cigarettes par jour.
15 cigarettes ouais, et un paquet c'est
20.
Ah oui. Et vous avez jamais eu de problème physique ?
Non.
Qui aurait pu faire un signal d'alerte ?
Non, j'ai jamais eu de problème. C'est pas médical, quoi. C'est pas du tout dans cette optique-là que je me suis arrêté.
Si vous deviez donner un conseil aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'arrêter de fumer, ce serait quoi ? Parce que les conseils, c'est les meilleurs pour ceux qui connaissent.
Eh ben, beaucoup de volonté. Et après, on se sent quand même libre. On n'est plus dépendant de sortir pour aller fumer. De la nicotine, parce qu'on en a besoin impérativement.
On rejoint encore une fois cet aspect de liberté, en fait.
Oui, ouais, la liberté de faire ce qu'on a envie, sans dépendance de quoi que ce soit.
Donc là, si les auditeurs nous écoutent et qu'ils sont en volant, et qu'ils ont la cigarette par la fenêtre, déjà c'est interdit. Et donc, il faut l'acheter. Il faut la poser.
Faut déjà faire un travail sur soi, dans sa tête, pour se dire, voilà, moi j'ai plus envie de fumer, faut que j'arrête et voilà. Si on n'a pas envie ou si on le fait pour une mauvaise raison, c'est pas la peine. Un jour, on reprend.
C'était le cas avant. C'était vous aviez arrêté pour une mauvaise raison et c'est pour
non,
ça que vous avez repris.
Non.
Il y a quand même un écart. 25-40 ans, c'est pas 6 mois après que vous avez repris.
Non, j'ai arrêté de fumer parce que voilà, les choses de la vie faisait que je retrouvais plus le besoin de fumer quoi, donc c'était contraignant pour moi de fumer, donc j'ai arrêté, voilà. J'ai eu des enfants, j'ai arrêté de fumer et j'ai repris parce que c'est pareil
parce que vos enfants ont eu des enfants.
Non, ils avaient pas encore l'âge. Non, parce que les choses de la vie font que on se dit que tiens, en fumant une clope, ça va peut-être aller mieux, mais pas du tout.
Mais pas du tout. Et c'est aussi un conseil qu'il faut donner aux auditeurs qui nous écoutent, voilà. Qui veulent arrêter.
Persévérance.
On en pense quoi de la cigarette électronique ?
Ah, moi, je trouve que c'est nul.
Parce que ça, apparemment aussi, ça marche pour arrêter.
Ouais, mais enfin moi, voilà, si je fume, je fume une vraie cigarette, quoi, du vrai tabac, du pur, du dur. Voilà. Après, fumer une cigarette, un espèce de machin en plastique, qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans. Au moins, quand on fume du tabac, on sait qu'on s'intoxique avec du tabac. Là, les produits de cigarettes électroniques, j'ai essayé. En plus, voilà, il y a les goûts, machin, barbapapa, eucalyptus.
Ah ouais, c'est pire que les glaces. Hein.
Ouais, c'est improbable. Donc, ben non, moi, la cigarette électronique, non. On fume une vraie cigarette, mais pas un truc.
Mais plus maintenant.
Ouais, ben, plus du tout.
Merci Eddy de nous avoir apporté votre expérience.
Merci.
Dans l'arrêt du tabac, je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'infos et de documentation sur le site Tabac Info Service ou sur le site de Tabagir, avec même des conseils de médecins spécialisés à l'image de Jean-Loup Duros, que je remercie également de nous avoir donné de son temps pour Bac FM. Le meilleur du son pop rock arrive tout de suite sur le 106.1 21 Pilots avec Izen. Je vous dis à demain. Bye.